Chapitre 13. Dans des eaux étrangères. Après le départ du docteur Walker, l'amiral remit toutes ses affaires dans son coffre de marin, à l'exception d'un petit portefeuille monté en laiton. Il l'ouvrit et en tira à peu près une douzaine de feuilles de papier bleu, toutes couvertes de timbres et de cachets, avec un Victoria Regina imprimé en grosses lettres en tête de chacune. Il les roula soigneusement en petits paquets et, les plaçant dans la poche intérieure de son habit, il prit sa canne et son chapeau. « Oh, John, ne faites pas cette imprudence !» s'écria Mistress Denver en lui mettant les mains sur la manche. « Je vous ai si peu eu près de moi, John. Il n'y a que 3 ans que vous avez quitté le service. Ne me quittez pas de nouveau. Je sais que c'est une faiblesse de ma part, mais je ne puis m'y faire. » « La voilà bien, ma brave fille, » dit-il en caressant ses bandeaux grisonnants. « Nous avons vécu ensemble dans l'honneur, mère, et s'il plaît à Dieu, nous mourrons dans l'honneur. Peu importe de quelle façon les dettes ont été faites, il faut les payer, et ce que le petit doit, nous le devons. Il n'a pas les fonds, et comment les trouvera-t-il? Eh bien alors, cela devient mon affaire, et il n'y a qu'une manière de l'arranger. » Mais la situation ne doit pas être aussi critique, John. Ne ferions-nous pas mieux d'attendre jusqu'à ce qu'il ait vu ces gens-là demain? Il se peut qu'il ne lui donne qu'un court délai, mais je m'arrangerai pour ne rien conclure qui ne puisse se défaire. À présent, mère, il ne sert de rien de chercher à me retenir. C'est une chose qui doit être faite, et ce n'est pas agir raisonnablement que de l'esquiver. Il détacha de sa manche les doigts de sa femme, la poussa doucement vers un fauteuil et sortit à grands pas. Moins d'une demi-heure après, l'amiral était débarqué dans le tourbillon de la gare Victoria et s'y trouvait au milieu d'une cohue nombreuse, agitée, qui se poussait, se bousculait pour entrer dans la salle d'attente encombrée. Son projet, qui, dans sa chambre, lui paraissait assez facile à réaliser, présentait déjà des difficultés d'exécution à ses yeux, et il se demandait avec embarras par quelle démarche il commencerait. Parmi le flot des gens affairés, dont chacun courait dans une direction définie, le vieux marin, en son complet à carreaux gris, avec son chapeau noir en feutre mou, avançait d'un pas lent, la tête penchée, son front ridé par l'indécision. Soudain, il lui vint une idée. Il retourna à la gare et acheta un journal quotidien qu'il déploya et retourna jusqu'à ce qu'il eût sous les yeux une certaine colonne. Alors il ploya soigneusement cette partie, se dirigea vers un siège et se mit à étudier cette colonne à loisir. Et vraiment, à en juger par cette lecture, il semblait étrange qu'il pût y avoir en ce monde des gens embarrassés faute d'argent. Là, c'était une longue liste de gentlemen affligés d'une surabondance de revenus et qui adressaient des appels empressés aux pauvres, aux nécessiteux, les invitant à venir les en soulager. Là, c'était l'innocent personnage qui n'était point un prêteur de profession, mais qui se ferait un plaisir de se mettre en rapport, etc., etc. Il y avait aussi l'accommodant particulier qui avançait des sommes allant de 10 livres à 10 000 livres, sans frais, ni garantie, ni retard. Argent remis en espèces dans le délai de quelques heures. Ainsi s'exprimait cette alléchante annonce, évocatrice d'une scène où l'on voyait de rapides messagers accourant, surchargés de sacs d'or, au secours du pauvre homme empêtré dans la lutte. Un troisième gentleman faisait toutes ses affaires par entrevue personnelle, avançait de l'argent sur n'importe quelle caution et même sans caution. La promesse la plus vague, la plus ténue, suffisait pour le satisfaire à en croire sa circulaire, et il finissait en ne demandant pas plus de 5%. Ce trait parut à l'amiral le plus prometteur de beaucoup. Ses rides s'effacèrent et son froncement de sourcils disparut à cette vue. Il plia le journal, se leva et se trouva nez à nez avec Charles Westmacott. Hola, amiral! Hola, Westmacott! Charles avait toujours été le favori du marin. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je suis venu pour quelques affaires de ma tante, mais je ne vous avais jamais vu jusqu'à ce jour à Londres. C'est un endroit que je déteste, ça me donne des étouffements. Il n'y a pas une gorgée d'air pur de ce côté-ci de Greenwich. Mais peut-être que vous connaissez bien les rues de la cité. Oh, pour cela, je la connais un peu, en effet. Vous savez, je n'ai jamais vécu ailleurs que dans la banlieue et je m'occupe de la plupart des affaires de ma tante. Vous connaissez peut-être Brent Street ? C'est une rue en dehors de Cheapside. Eh bien, comment vous orientez-vous pour y aller d'ici ? Faites-moi un tracé et je le suivrai. Mais, amiral, je n'ai rien à faire, je me ferai un plaisir de vous y conduire. Vous feriez ça ? Eh bien, j'accepterai votre offre avec reconnaissance. J'ai affaire par là. Smith et Anne Beret, agents financiers, Brad Street. Le couple se mit en route le long du fleuve et suivit le cours de la Tamise jusqu'au débarcadère de Saint-Paul. Ce genre de voyage était bien plus au gré de l'amiral que l'omnibus ou le cab. En route, il expliqua à son compagnon son projet et les événements qu'il y avait amenés. Charles Westmacott était bien peu au fait de la vie de la cité et des détails des affaires, mais il en savait par expérience plus que l'amiral et il prit la résolution de ne plus le quitter avant que la question fût réglée. « Voilà les gens en question, » dit l'amiral en déployant son journal et lui indiquant l'annonce qui lui avait paru faire les plus belles promesses. « Ça vous a l'air honnête et à ciel ouvert, n'est-ce pas ? L'entrevue personnelle écarte l'idée de supercherie et quant aux 5%, on ne peut y trouver à redire. Non, cela paraît assez loyal. Ce n'est guère agréable d'aller le chapeau à la main emprunter de l'argent, mais il y a des moments, comme vous pourrez en avoir avant que vous arriviez à mon âge, Westmacott, où un homme doit rentrer son amour-propre. Mais voici leur numéro et leur plaque sur cette porte-ci. Une entrée étroite, flanquée à droite et à gauche d'une rangée de plaques, commençant par celle des courtiers maritimes et des solliciteurs qui occupaient le rez-de-chaussée, continuant par un long défilé de commissionnaires pour les Indes occidentales, d'architectes, de géomètres, de coulissiers, et finissant par la maison qu'ils cherchaient. Un escalier tournant en pierre, pourvu d'un bon chemin et d'une rampe, dans les premiers étages, mais prenant un aspect de plus en plus délabré à chaque carré, les fit passer devant des portes sans nombre et enfin les amena au dernier étage, juste sous le vitrage du toit, devant une porte où étaient peints sur un panneau en grosses lettres blanches les noms de Smith et Anne Beret, au-dessus de l'invitation laconique « Poussez ». L'amiral et son compagnon suivirent ce conseil et se trouvèrent dans une pièce enfumée, mal éclairée par les vitres de deux fenêtres. Une table tachée d'encre et couverte de plumes, de papier, d'almanachs, un canapé de moleskine, trois chaises de modèles différents, une carpette très usée, constituait tout l'ameublement, en y comprenant un vaste et encombrant crachoir de porcelaine et un tableau au cadre très voyant, au sujet très obscur, qui était suspendu au-dessus de la cheminée. Devant ce tableau, qu'il contemplait fixement d'un air sombre, comme si c'était le seul objet qu'il eût à contempler, était assis un petit garçon à figure blême, à grosse tête, qui, dans les intervalles de ses études artistiques, croquait sans se presser une pomme. « Mr. Miss ou Mr. Hanbury sont-ils visibles ?» demanda l'amiral. « Il n'y a personne comme ça, » dit l'enfant. « Mais il y a leur nom sur la porte. »« Oh, c'est le nom de la firme, vous savez. Ça n'est qu'un nom. » « C'est-il, Mr. Ruben Mextaxac, que vous demandez ?»« Eh bien, alors, est-il chez lui ?»« Non, il n'y est pas. »« Quand y sera-t-il »« Ça, je ne sais pas, pour sûr. Il est parti déjeuner. Des fois, il prend une heure, des fois deux. Aujourd'hui, ce sera deux, je crois, parce qu'il a dit, avant de partir, qu'il avait faim. »« Alors, je crois que nous ferions mieux de revenir, » dit l'amiral. « Mais pas du tout, » s'écria Charles, « je sais comment on fait marcher ces petits lutins. »« Tu vois, vermine, voilà un shilling pour toi. Cours et ramène ton patron. S'il n'est pas ici dans 5 minutes, je te flanque une paire de bourrades de chaque côté de la tête quand tu reviendras. Allons, oust !» Et il fit une charge à fond sur le gamin qui s'élança dehors et descendit les marches à grand bruit. « Il va le ramener, » dit Charles, « mettons-nous à notre aise. » Le canapé ne m'a pas l'air d'une solidité bien rassurante. Il n'est pas fait pour des 200 livres. Puis l'endroit n'a guère l'apparence d'un établissement où l'on s'attendrait à ramasser de l'argent. C'est ce que je pensais, dit l'amiral en regardant autour de lui d'un air déconfit. Oh, d'ailleurs, j'ai entendu dire que les bureaux les mieux meublés sont ceux des maisons les plus pauvres. Espérons qu'ici, c'est tout le contraire. En tout cas, on ne doit pas faire beaucoup de frais d'entretien. Le petit à tête de courge forme à lui seul tout le personnel à ce que je vois. Ah, par Jupiter, j'entends sa voix, et il ramène notre homme, je crois. Comme il parlait, le gamin apparut sur le seuil avec un petit bout d'homme brun, ratatiné, rasé de près, au menton bleu, avec une chevelure hérissée et noire, aux petits yeux bruns et perçants qui luisaient sous des paupières inférieures en capote de cabriolet et des paupières supérieures tombantes. Il s'avança en dévisageant attentivement ses deux visiteurs et frottant avec lenteur ses mains maigres aux veines bleues. Le petit garçon ferma la porte sur eux et disparut avec discrétion. « Je suis Mr. Ruben Metaxa, dit le prêteur. « Était-ce pour une avance que vous désiriez me voir ?»« Oui. »« Pour vous, je présume, » dit-il en s'adressant à Charles Westmacott. « Non, pour ce gentleman. » Le prêteur parut surpris. « Combien désirez-vous ?»«
J'avais pensé à 5 000 livres, » dit l'amiral.
« Et sur quelle garantie ?»«
Je suis amiral en retraite de la marine anglaise. Vous trouverez mon nom dans l'annuaire de la flotte. Voici ma carte. J'ai apporté mes titres de pension. Elle se monte à 850 livres par an. J'ai pensé qu'en vous confiant ces titres, il pourrait vous paraître une garantie suffisante pour le remboursement. Vous pourriez toucher ma pension et vous rembourser vous-même sur le pied de... voyons, 500 livres par an, en prélevant en même temps vos 5% d'intérêt.
Quel intérêt ?
5% par an.
Mr. Metaxa se mit à rire.
« Par an, dit-il, 5% par mois. »«
Par mois, cela ferait 60% par an. »«
Précisément. »«
Mais c'est monstrueux. »«
Je ne demande pas aux gentlemen de venir me trouver. Ils viennent de leur propre gré. Ce sont là mes conditions, c'est à prendre ou à laisser. »«
Alors, je laisse, » dit l'amiral en se levant avec colère.
« Un instant, monsieur, rasseyez-vous et causons un peu de l'affaire. » La vôtre est un peu en dehors de l'ordinaire et nous trouverons peut-être un moyen de faire ce que vous désirez. Naturellement, la garantie que vous offrez n'est pas du tout une garantie et pas un homme de bon sens n'avancerait sur elle 5 000 pennies.
Ce n'est pas une garantie et pourquoi cela, monsieur?
Vous pouvez mourir demain, vous n'êtes pas un jeune homme.
Quel âge avez-vous?
63 ans.
Mr. Metaxa consulta une longue colonne de chiffres.
« Voici une table de mortalité. À votre âge, les chances moyennes de vie sont de quelques années à peine, même chez un homme bien conservé. »«
Prétendez-vous insinuer que je ne suis pas un homme bien conservé ?»«
Eh, amiral, la vie de marin est des plus dures. Dans leur jeunesse, les marins sont de joyeux drilles et ils se dépensent sans compter. » Puis, quand ils ont vieilli, ils continuent à se donner du bon temps et ils n'ont aucune chance de repos ou de tranquillité. Je ne trouve pas qu'une vie de marin soit une certitude de longévité.
Voilà ce que je puis vous dire, dit l'amiral en s'échauffant. Si vous avez une paire de gants, je parie de vous tomber en 3 coups. Ou bien je vous distancerai au pas de course d'ici à Saint-Paul. Mon ami que voici veillera à la loyauté de la partie. « Je vous ferai voir si je suis vieux ou non. »«
Il ne s'agit pas de cela, » dit le prêteur en faisant un geste de refus. « Le point en question, c'est que si vous mouriez demain, votre garantie n'existerait plus. »«
Je pourrais m'assurer sur la vie et vous remettre la police. »«
La prime que vous auriez à payer, en supposant, ce dont je doute fort, qu'une compagnie veuille vous accepter, cette prime se monterait à bien près de 500 livres par an. » Cela ne ferait pas votre compte.
Eh bien, monsieur, dit l'amiral, que voulez-vous proposer?
Je pourrais opérer d'une autre façon pour vous accommoder. J'enverrai chercher un médecin pour avoir son opinion sur vos chances de vie. Alors, je verrai ce qu'il m'est possible de faire.
Cela est parfaitement juste, je n'y fais aucune objection.
Il y a dans cette rue-ci un très habile médecin. Il se nomme Prudy John. « Allez chercher le docteur Prudy. » Le gamin alla faire la commission pendant que Mr. Metaxa, assis à son bureau, se rognait les ongles et émettait de brefs commentaires sur le temps qu'il faisait. Bientôt, on entendit des pas dans l'escalier. Le prêteur courut au dehors. On entendit quelques mots échangés à voix basse. Puis il rentra, accompagné d'un homme grand, gros, crasseux, vêtu d'un habit fort usé et coiffé d'un chapeau haut de forme non moins délabré. « Le docteur Prudy, gentleman. » Le docteur s'inclina, sourit, ôta son chapeau et en tira un stéthoscope de l'air d'un prestidigitateur qui est sur scène. « Lequel de ces deux gentlemen dois-je examiner ? » demanda-t-il en promenant de l'un à l'autre un regard clignotant. « Ah, c'est vous ? Notez que votre gilet. Inutile de défaire votre faux col. Merci. Respirez fortement. Merci. 99. Merci. Maintenant, retenez un instant votre respiration. Oh, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends là ?
Qu'est-ce que c'est donc ? Dit froidement l'amiral.
Chut, chut, c'est bien dommage. Avez-vous eu une fièvre rhumatismale ?
Jamais.
Vous avez eu quelque sérieuse maladie ?
Jamais.
Oh, vous êtes amiral, vous avez bien voyagé ? Les tropiques, la malaria, la peste, je sais.
Je n'ai jamais eu un jour de maladie.
Vous avez été malade sans vous en douter, vous avez respiré un air malsain et il en est resté des traces. Vous avez un murmure organique, faible mais perceptible.
Est-ce dangereux ?
Cela pourrait le devenir d'un moment à l'autre. Vous ne devez pas vous livrer aux exercices violents.
Ah, vraiment ? Cela me nuirait de faire un demi-mille à la course.
Ce serait des plus dangereux.
Et un mille.
Alors ce serait certainement fatal.
Et il n'y a pas autre chose ?
Non, mais si le cœur est faible, alors tout est faible et la vie n'est pas une certitude.
Vous le voyez, amiral, fit remarquer Mr. Metaxa pendant que le docteur remettait son stéthoscope dans son chapeau.
Mes observations étaient assez justifiées. Je suis fâché que l'opinion du docteur ne soit pas plus favorable, mais il s'agit d'affaires et il est des précautions dont la nécessité est évidente.
Naturellement. Alors il n'est plus question d'arrangement.
Eh bien, même maintenant, on pourrait encore traiter. Docteur, quelle est selon vous la durée probable qui reste à vivre à ce gentleman ?
Eh, c'est une question à laquelle il est assez délicat de répondre, dit M. Prudy en feignant l'embarras.
Pas du tout, monsieur, n'hésitez pas. J'ai affronté la mort trop souvent pour reculer maintenant devant elle, bien que je l'ai vue d'aussi près que je vous vois.
Eh bien, il va de soi que nous devons raisonner d'après les moyennes.
Dirons-nous 2 ans ? Je crois que vous avez 2 bonnes années à vivre.
En 2 ans, votre pension vous rapporterait 1 600 livres.
Maintenant, je vais faire de mon mieux pour vous, amiral. Je vous avancerai 2 000 livres et vous pourrez me céder votre pension votre vie durant. Pour moi, c'est un jeu de hasard. Si vous mourrez demain, mon argent est perdu. Si la prédiction du docteur se réalise, j'en serai encore de mon argent. Si vous vivez un peu plus longtemps, alors je peux rentrer dans mes déboursés. Voilà tout ce que je peux faire de mieux pour vous.
Alors vous désirez acheter ma pension ?
Oui, pour 2 000 livres.
Et si je vis 20 ans ?
Oh, dans ce cas, ma spéculation serait plus avantageuse. Mais vous avez entendu l'opinion du docteur.
Est-ce que vous verseriez l'argent sur le champ ?
Vous auriez 1 000 livres séance tenante. Quant aux autres 1 000 livres, je compte que vous les prendriez en meubles.
En meubles ?
Oui, amiral, nous vous monterions une très belle maison pour ce prix. C'est l'usage que mes clients acceptent la moitié des avances en meubles.
L'amiral était terriblement perplexe. Il était venu chercher de l'argent et s'en retourner sans en rapporter, rester impuissant à ne rien faire alors que son garçon aurait besoin de leur dernier shilling pour échapper au désastre, c'était bien amer pour lui. D'autre part, il renonçait à une ressource bien considérable, et cela pour recevoir bien peu. Bien peu, oui, mais c'était encore quelque chose. Il voyait le carnet de chèques à tranches jaunes sur la table.
Le prêteur ouvrit le carnet et trempa sa plume dans l'encre. « Faut-il le remplir ?»«
Amiral, dit Wazmacott, je suis d'avis d'aller faire un petit tour et de déjeuner avant de conclure cette affaire. »
« Oh, pourquoi ne pas en finir tout de suite ? Ce serait absurde de remettre à plus tard. »
Metaxa dit ces mots avec une certaine vivacité et ses yeux pétillaient de colère sous la fente étroite de ses paupières en regardant l'imperturbable Charles. L'amiral ne s'entendait guère en affaires d'argent, mais il avait vu bien des hommes et il avait appris à les déchiffrer. Il saisit au vol ce regard venimeux. Il vit aussi l'intense désir qui perçait sous l'air détaché qu'affectait l'homme d'affaires.
« Vous avez parfaitement raison, Wazmacott, dit-il. Allons faire un petit tour avant de conclure. »
« Mais il se pourrait que je ne sois pas ici cet après-midi. »
« Alors convenons de notre jour. »
« Mais pourquoi ne pas conclure l'affaire à présent ?»«
Parce que je préfère agir ainsi, dit sèchement l'amiral.
« Très bien. » « Mais rappelez-vous que mon offre n'est valable que pour aujourd'hui. Si vous ne l'acceptez pas séance tenante, je la retire. »«
Eh bien, retirez-la. »«
Et mes honoraires ? » s'écria le docteur.
« Combien ? » ?»«
Une guinée. »
L'amiral jeta sur la table une livre et un shilling.
« Venez, Wazmacott, dit-il. »
Et ils sortirent ensemble de la pièce.
« Je n'aime guère cela, dit Charles, quand ils se trouvèrent de nouveau dans la rue. Je ne prétends pas être le malin des malins, mais c'était un peu trop transparent. Qu'avait-il besoin de sortir et d'aller parler au docteur ? Et comme c'était bien trouvé à propos, cette histoire de faiblesse de cœur. Je crois que c'est une paire de gredins et qu'ils sont d'accord.
« Un requin est son poisson pilote, dit l'amiral.
« Je vais vous faire une proposition, monsieur. Il y a un homme de loi nommé Macadam, qui s'occupe des affaires de ma tante. C'est un parfait honnête homme et il demeure de l'autre côté de Poultry. Nous allons le voir ensemble et nous lui demanderons son avis sur toute l'affaire.
Quelle distance y a-t-il d'ici jusque chez lui ?
Oh, 1 mille au moins. Nous pouvons prendre un cab.
1 mille ? Alors nous allons voir s'il y a un mot de vrai dans ce qu'a dit ce mannequin de docteur.
« Allons, mon garçon, déployons toute notre voilure et voyons lequel des deux tiendra bon le plus longtemps. »
Alors les paisibles habitants de ce quartier d'affaires assistèrent, en revenant de leur déjeuner, à un singulier spectacle. Sur la chaussée, se faufilant à travers les câbles et les charrettes, un homme d'un certain âge, à la figure hâlée, couré, coiffé d'un large chapeau noir aux ailes battantes, vêtu d'un complet à carreaux de coupe fort simple. Les coudes collés au corps, en arrière, les poings fermés près des aisselles, la poitrine en avant, il gagnait du terrain, pendant que tout près de lui allait du même pas un grand et gros gaillard, jeune homme à moustache, qui avait l'air de faire plus d'efforts que son aîné. Ils avancèrent ainsi à travers la bousculade et finirent par arriver ainsi, tout essoufflés, à la porte de la maison qu'habitait l'homme d'affaires des Wazmacott.
« Eh bien !» s'écria l'amiral triomphant. « Que dites-vous de cela ? Rien de dérangé dans la machinerie, hein ?»«
Vous paraissez assez dispos, monsieur.
Je vous êtes pendu si ce mannequin était un docteur diplômé. Il arborait un pavillon faux où je me trompe beaucoup. »«
Il y a des annuaires et des livres d'adresse dans ce restaurant, dit Wazmacott. Entrons, nous nous en assurerons. »
Ils le firent, mais les listes de médecins ne contenaient aucun nom tel que celui de Dr. Prudy à Bread Street.
« Quelle jolie canaille !» s'écria l'amiral en se frappant la poitrine. « Un docteur postiche et une maladie inventée de toutes pièces. Eh bien, Wazmacott, maintenant que nous avons passé par les gredins, allons voir un peu ce que nous pourrons faire avec votre honnête homme. »